La cathédrale Notre-Dame de Paris. Une histoire française. Françoise Claustre. Lecture clé en français facile. Copyright Clé Internationale 2025. Chapitre 1. La construction de Notre-Dame. Notre-Dame de Paris en quelques lignes. La cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'on appelle souvent Notre-Dame, se trouve sur l'île de la Cité. L'île de la Cité. L'île de la Cité est une petite île située sur la Seine, le fleuve qui traverse Paris. C'est le centre et le berceau de la ville de Paris, qui s'appelait autrefois Lutèce. En 1190, peu de temps après les débuts de la construction de Notre-Dame, l'historien Guy de Bazoche disait qu'elle était la tête, le cœur et la moelle de Paris. L'île de la Cité mesure 22 hectares, 220 000 mètres carrés. On peut y arriver par les stations de métro Cité et Saint-Michel ou par plusieurs ponts, comme le pont Neuf, le plus ancien pont de Paris. Quand on regarde la cathédrale depuis le parvis, l'esplanade qui est devant la cathédrale, on aperçoit la façade occidentale qui dessine un carré avec deux tours au-dessus. En bas, trois portails avec de lourdes portes de bois permettent d'entrer dans la cathédrale. Au-dessus des portails, on aperçoit la galerie des rois de Juda, les ancêtres du Christ. Au-dessus de la galerie, on peut admirer une rosace au centre et les deux tours de chaque côté en haut. On aperçoit la flèche qui est sur le toit entre les deux tours. Les proportions de cette façade fascinent. Le carré représente le monde rationnel, terrien. Le cercle symbolise le monde divin. La cathédrale, construite au Moyen-Âge, 476-1492, est dédiée à la Vierge Marie, la Mère de Jésus, qu'on appelle aussi Notre-Dame. La Vierge Marie est un peu la mère de tous les catholiques. Au Moyen-Âge, on la respectait beaucoup. Plus de 35 représentations, peintures, sculptures, vitraux, honorent la Mère du Christ dans la cathédrale. À l'entrée du chœur, on peut admirer une statue de la Vierge Marie toujours fleurie. La cathédrale est de style gothique. Le gothique. L'architecture gothique s'est développée en France et en Europe du XIIe au XVIe siècle. Avant, on construisait dans le style roman. Au début du XIIe siècle, on découvre de nouvelles techniques. On peut alors construire des bâtiments, églises, cathédrales, plus grands, plus larges et plus hauts. Les fenêtres deviennent aussi plus grandes. Il y en a 113 dans la cathédrale Notre-Dame. Les bâtiments sont mieux éclairés. On orne les fenêtres des églises de vitraux, des verres de couleur. Paris au XIIe siècle. Au XIIe siècle, Paris est la capitale des rois. C'est un centre économique et intellectuel important. Le royaume est en paix. Il se développe. On construit beaucoup, des ponts, des hôpitaux, des maisons, des églises. Il y a beaucoup de monde à Paris et sur l'île de la Cité. Un siècle plus tard, Paris sera la ville la plus peuplée d'Europe, avec 200 000 habitants. Il existe plusieurs églises à Paris au XIIe siècle, dont une petite cathédrale, Saint-Étienne. La cathédrale est l'église de l'évêque, qui est alors Maurice de Sully. Mais la cathédrale est trop petite, et Maurice de Sully a de l'ambition. Une cathédrale digne de Paris à la gloire de Marie. Maurice de Sully, évêque de Paris depuis 1160, décide d'utiliser les nouvelles techniques architecturales qui font entrer plus de lumière dans les bâtiments pour construire une cathédrale sur l'emplacement de la petite cathédrale Saint-Étienne. la lumière est là pour rendre gloire à Dieu. Il veut aussi aménager le parvis comme un espace entre le monde profane et le monde spirituel. Il parle de son idée au roi Louis VII, qui lui promet de lui donner de l'argent. L'évêque, la famille royale, des gens riches, des marchands de Paris, des croyants, donneront aussi de l'argent. La première pierre de la cathédrale Notre-Dame est posée en 1163. Le pape Alexandre III l'a béni. La cathédrale est consacrée à la Vierge Marie. Un chantier gigantesque. On décide de construire Notre-Dame comme un grand bateau orienté vers l'est où le soleil se lève. On recrute plus de 200 ouvriers, des charpentiers, des tailleurs de pierre, des sculpteurs, des forgerons, des maçons. Des femmes travaillent également sur le chantier. Elles font le mortier, le plâtre. Des bénévoles, des gens qui travaillent mais qu'on ne paye pas, participent aussi au chantier. Toutes ces personnes savent qu'elles ne verront pas la cathédrale terminée, mais ce n'est pas grave. Elles savent qu'elles participent à quelque chose d'important, d'unique. Certains ouvriers dorment sur place. Les pierres et le bois viennent des alentours de Paris. Il faudra plus de 1300 chênes, des arbres très solides, pour la charpente, l'ossature du toit, qu'on appelait la forêt. 1300 chênes, c'est 21 hectares de forêt, presque les dimensions de l'île de la Cité. Chaque poutre vient d'un chêne différent. Pour faire entrer les pierres et le bois, on commence par agrandir les rues autour de la cathédrale Saint-Étienne, notamment la rue Neuve Notre-Dame. Les différentes étapes. Comme souvent, la cathédrale est construite selon un plan en forme de croix, la croix de la crucifixion de Jésus. On décide aussi de faire porter le poids de la construction sur les piliers et pas sur les murs comme avant. Il y a 75 colonnes et piliers dans la cathédrale. La construction commence par le chevet en forme de demi-cercle. C'est la partie la plus ancienne. Le chœur où se trouvent les prêtres et l'autel est orienté vers l'est. Pour que les prêtres prient au calme, on construit une séparation entre le déambulatoire et l'intérieur du chœur. Une construction, cela fait du bruit. Aujourd'hui, on peut voir une partie de la séparation en bois sculpté qui représentait d'un côté les apparitions de Jésus après sa mort, à Marie-Madeleine, à Thomas, et de l'autre côté des épisodes de son enfance. Quand le chœur est terminé, en 1182, on construit la nef, la longue allée qui va d'ouest en est. C'est la branche verticale de la croix. En 1196, Maurice de Sully meurt. L'évêque Eudes de Sully lui succède et poursuit son travail. Vers 1200, on s'occupe des façades. À partir de 1225, on monte les deux tours à 69 mètres de haut. Il fallait grimper plus de 400 marches pour y accéder jusqu'à l'incendie de 2019. C'était difficile, mais en haut, on a une vue exceptionnelle sur Paris et les alentours. On construit une première flèche sur le toit vers 1250. Il s'agit alors d'un clocher qui sonne les heures, la messe. Les trois portails extérieurs datent également de cette époque. Ils sont sculptés. Ces sculptures permettaient aux croyants qui ne savaient pas lire de connaître l'Évangile et l'histoire des chrétiens. Beaucoup de gens ne savaient pas lire au Moyen Âge. Au centre, le portail du jugement dernier où les croyants du Moyen Âge pouvaient voir ce qui allait leur arriver après la mort. En bas, c'est la résurrection des morts. Les morts sortent de leur tombe. Au-dessus, l'archange Saint-Michel pèse les âmes. Et deux petits démons essaient de faire pencher la balance. Les personnes qui ont bien agi sont emmenées au paradis, mais ceux qui ont mal agi, les damnés, sont enchaînés. Des démons les emmènent en enfer, on avait très peur de l'enfer au Moyen-Âge. En haut, Jésus, assis, regarde et bénit le monde. Ce portail est le plus grand. À la gauche du portail du jugement dernier se trouve le portail de la Vierge. On peut voir la mort de Marie, sa montée au ciel, l'Assomption, fêtée le 15 août, et son couronnement dans le ciel. À la droite du portail du jugement dernier se trouve le portail de Sainte-Anne, la mère de Marie. Ce portail raconte l'enfance du Christ. C'est le portail le plus ancien. C'est également au XIIIe siècle que l'on construit l'une des merveilles de la cathédrale, les trois rosaces, des vitraux. Les vitraux de Notre-Dame sont des chefs-d'œuvre de l'art gothique. Ils représentent en tout 1000 mètres carrés. Le nom rosace vient de la fleur appelée rose. Elles sont si bien faites qu'on a l'impression qu'elles tournent. Roi de France depuis 1226, Louis IX, le futur Saint-Louis, veut assister à la pose des rosaces avant son départ en croisade. Les trois rosaces sont installées vers 1270. Le roi Louis IX part en croisade, mais il meurt peu après devant Tunis, en Afrique. La rosace ouest décrit davantage la vie quotidienne, la vie de tous les jours. On l'a construite en premier. Elle mesure 9,60 mètres de diamètre. C'est la rosace qu'on voit quand on est sur le parvis. La rosace au nord date de 1250. Elle fait 13 mètres de diamètre et apporte de la lumière au cœur. Elle raconte l'Ancien Testament. Au centre, le Christ est sur les genoux de sa mère. La rosace du sud est plus tardive, 1260. On l'appelle aussi rosace du midi. Offerte par Saint-Louis, c'est aussi une source de lumière pour le cœur. Elle raconte le Nouveau Testament. Les apôtres, les saints et les anges entourent le Christ en gloire. Elle mesure aussi 13 mètres de diamètre, un exploit pour l'époque. Les trésors de la cathédrale. Les gargouilles. Un système de canalisation, de gouttières, emmène les eaux de pluie loin des murs, ce qui protège la pierre. Les gargouilles sont l'extrémité des gouttières. Ce sont des sculptures penchées dans le vide qui rejettent l'eau qui vient du toit. Le mot « gargouille » vient du latin « gorge » et de l'ancien français « gueule ». La gargouille est une invention du Moyen-Âge. Au début de la construction de la cathédrale Notre-Dame, elle n'existait pas. On les a construites vers 1210. Elles représentent souvent des animaux fantastiques. Les tailleurs de pierre leur ont fait des têtes qui font un peu peur, comme des têtes de monstres. Au Moyen-Âge, on disait qu'elles éloignaient le diable et qu'elles repoussaient la colère du ciel. Les gargouilles sont un peu les gardiennes de la cathédrale. La couronne d'épines. La cathédrale contient de vrais trésors pour les croyants, comme la Sainte Couronne, la couronne d'épines mise sur la tête du Christ avant sa crucifixion. Cette relique est présentée aux fidèles certains jours, comme à Pâques, le moment de l'année où les chrétiens fêtent la résurrection du Christ. La crucifixion du Christ. La Passion est l'ensemble des souffrances qui précèdent et accompagnent la mort de Jésus. Les reliques de la Passion sont des objets qui ont servi, selon la croyance, à la crucifixion du Christ. La cathédrale Notre-Dame conserve la couronne d'épines que les soldats romains ont mis sur la tête du Christ pour se moquer de lui, un morceau de la croix où on l'a crucifié et un clou. Les reliques, au début, se trouvent à Jérusalem, puis elles arrivent à Constantinople. En 1238, l'empereur de Constantinople, Baudouin II de Courtenay, qui a des problèmes d'argent, vend la couronne d'épines très chère à Louis IX. En 1239, les reliques arrivent à Paris, et on les installe à Notre-Dame. Vers 1340, la cathédrale est achevée. Les 29 chapelles du XIIIe siècle sont terminées. Voici la plus ancienne représentation qu'on possède de Notre-Dame, une miniature de Jean Fouquet réalisée entre 1452 et 1460.